Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Concrètement. Et cette semaine, je suis avec Jean-Yves Grasset. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Pascal.
Et tu es toujours donc Chief Security Architect.
Voilà,
à la direction donc, technique.
Toujours. Direction technique Microsoft France.
Impeccable. Et donc tu viens nous parler aujourd'hui de sécurité, évidemment.
Bien sûr.
Et d'une attaque particulièrement intéressante qui s'appelle les attaques de la famille du type Pass-the-Hash. Pass-the-Hash. Et tu vas nous expliquer comment avec Windows Server 2016, on a une nouvelle solution pour lutter contre ce type d'attaque.
Voilà, donc on a une nouvelle fonctionnalité. Donc je vais d'abord passer sur l'agenda pour savoir exactement de quoi on va parler. Donc on va parler d'un scénario particulier où on va travailler en fait avec soit une carte à puce virtuelle, soit une carte à puce normale, ou soit maintenant avec le nouveau mode d'authentification qu'on appelle Passport for Work. Et on va expliquer pourquoi, en fait, on a toujours besoin de ce fameux hash de mot de passe.
Alors que là, tu nous parles de méthode d'authentification qui n'utilise pas de mot de passe.
Absolument, absolument. Mais on va le détailler après.
Okay.
Deuxième, on va voir quel est l'intérêt. Donc l'intérêt, ça va être effectivement de limiter la durée de validité d'un hash dans le cas d'une attaque. Et qu'est-ce qu'on va expliquer? Bon, on va faire un petit rappel sur Pass-the-Hash. On va expliquer pourquoi on a toujours des hash qui sont dans la nature. Mm-hmm. Et on va expliquer également comment est-ce que ça marche, ce renouvellement, justement, cette nouvelle fonctionnalité Windows Server 2016. Bien sûr, on va s'appuyer sur une démo. Alors, la démo, c'est en deux temps. Une première partie, donc on va basculer. Donc,
premier temps.
Ouais, le premier temps. Donc là, je suis sur un Windows Server 2016 qui implémente justement cette fameuse fonctionnalité. Et là, on est tout simplement dans les, dans la liste des utilisateurs et computeurs. Et je vais m'intéresser
donc. Domaine.
Voilà. Oui, voilà, au niveau du domaine. Donc c'est un domaine contoso.com que j'ai créé. Et donc là, on a des utilisateurs du domaine. Donc je vais m'intéresser à l'utilisateur Jean-Cetrevage. Alors, j'ai augmenté après. Donc il y a un attribut particulier qui s'appelle password asset. Donc là, je vais augmenter la résolution, un petit coup de zoomit. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est faire se mémoriser à quelle heure a eu finalement lieu le dernier changement de mot de passe. On voit bien 14h05. Donc on y reviendra après à la fin de la démo pour voir si effectivement le mot de passe a été changé automatiquement. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai programmé forcément pour la démo une durée du mot de passe qui est de 5 minutes. Donc d'ici qu'on revienne sur la démo, on pourra vérifier qu'effectivement le mot de passe a été changé ou pas et dans quelles conditions.
Il aura été changé sans que tu ne fasses rien, donc il y a un processus automatique qui met à jour le mot de passe.
Absolument, donc c'est ce qu'on va détailler.
C'est le but.
Le but c'est ça. Alors on va voir pourquoi c'est si important dans des modes d'authentification qui en fait, au départ, on pourra penser n'utilise plus de mot de passe.
Donc 14h05.
Donc je te propose de.
On revient sur les slides.
De revenir sur la présentation. Donc un petit rappel sur l'attaque Pass-the-Hash. En fait, ce qui se passe, c'est que au moment où tu ouvres une session sur Windows, c'est du protocole Kerberos. Hein. Et donc la question qu'on peut se poser finalement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un hash quand même? C'est tout simplement pour des raisons de compatibilité. C'est-à-dire en retour de la trame d'authentification Kerberos, finalement, on va quand même avoir un hash de mot de passe qui va être fourni, qui va être sauvegardé localement et qui va nous permettre en fait d'accéder à des ressources, par exemple ça peut être un proxy, qui eux ne parlent pas Kerberos. Okay, donc par souci de compatibilité, on continue à travailler avec ce NTH. Maintenant, le problème, et donc c'est là où on en vient à l'attaque Pass-the-Hash, c'est que lorsqu'un appareil est compromis, c'est-à-dire que si avec un malware quelconque, je prends possession en tant qu'attaquant, du poste, je fais une élévation de privilège, je deviens administrateur local de la machine, j'ai moyen, en fait, avec des outils bien connus, d'aller récupérer des informations qui sont, entre autres, le hash du mot de passe. Et le problème.
Ça peut être soit le hash de l'utilisateur, mais également le hash d'autres sessions présentes sur la machine.
Absolument, ouais, absolument. Mais voilà, donc ça va même au-delà, c'est-à-dire que si on peut récupérer des hashes d'une personne avec encore plus de privilèges, c'est encore mieux, parce que là, on va pouvoir faire une élévation de privilèges supplémentaire. Et l'autre avantage également, enfin l'avantage du côté de l'attaquant, c'est ce fameux hash, je vais être capable en fait de l'utiliser à partir d'un autre endroit du réseau, à partir d'une autre machine, parce que l'idée, ça va être effectivement dans ce type d'attaque d'aller essayer de récupérer des credentials, donc des hashes de machine en machine jusqu'à tomber sur un compte plus privilégié. Mais c'est surtout qu'on va pouvoir donc effectuer des connexions réseau simplement en fournissant ce hash. Tout simplement parce que c'est un secret qui est partagé entre d'un côté l'utilisateur et puis de l'autre côté le contrôleur de domaine qui va être chargé l'authentification. Okay. Donc en fait, c'est un très bon moyen de faire des usurpations d'identité et ça ne sert absolument à rien de dire tiens, je vais essayer de trouver le mot de passe qui est associé à ce hash, parce que de toute façon, rien qu'avec le hash, on est capable d'établir une connexion. Donc ça, c'est le principe de passe EH. Alors maintenant, il faut voir, et ça c'est intéressant, de savoir donc, alors ce que j'ai appelé credentials, hein, j'ai pas trouvé de... Bon, c'est les informations d'authentification, voilà, mais bon.
C'est l'EH.
Voilà, donc entre autres. Alors pour que les fameux credentials puissent être récupérés, en fait, il faut qu'ils soient disponibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils existent réellement sur la machine pour pouvoir, il faut qu'ils soient présents. Deuxièmement, il faut qu'on soit en mesure de les extraire, qu'ils soient extractibles. Okay. C'est-à-dire donc il faut un moyen. Donc là, le moyen dans Pass the Hash, c'est effectivement on va se débrouiller à aller récupérer des informations dans une mémoire, dans des API privilégiées, dans un processus privilégié, on va essayer de récupérer justement des informations qui sont disponibles en mémoire. Et après, effectivement, il faut qu'ils soient utilisables. C'est-à-dire que si tu voles quelque chose, mais que tu n'es plus capable de l'utiliser, ou alors justement pendant une fenêtre de temps très réduite, effectivement, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc on voit que c'est important d'être capable de jouer sur les différents niveaux. Donc quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on a comme solution pour limiter l'extractibilité des credentials? Donc la solution qu'on avait, qui existe depuis Windows 2000, c'est l'utilisation des cartes à puces. Donc effectivement, l'utilisation des cartes à puces, c'est intéressant parce que le credential, si tu veux, il est il est à l'intérieur de ta carte. Donc tu vas avoir un challenge, mets ta clé privée, elle ne sort jamais de ta carte. Sauf que, après, à partir du moment où tu as fait cette connexion sur le réseau, tu bascules sur du Kerberos. Donc ça veut dire que tu vas avoir des credentials, que ce soit le NTH ou que ce soit autrement des tickets Kerberos, hein, que ce soit un TGT, un TGS, eh bien, ces trucs-là vont se retrouver également sur le poste.
Donc on voit. Le mot de passe n'est pas utilisé, mais le hash quand même se retrouve.
Absolument. Donc là, on va retrouver le hash qui va être en mémoire. Avec Windows 8.1, donc on a vu arriver donc les cartes à puces virtuelles. Donc ça, c'est intéressant parce que se dire, à partir du moment où on a un TPM, on a quelque chose qui ressemble, si tu veux, à une carte à puce, sauf qu'elle est fixée à l'intérieur de la machine. Donc ça, c'est intéressant, ça évite d'avoir une carte à puce physique, de devoir la connecter, etc. Classiquement, pour des tablettes.
Ça simplifie l'utilisation d'une carte à puce puisqu'il n'y a plus la carte à puce physique. Mais on a toujours le hash qui se retrouve sur la machine quand même.
Ça change absolument rien à la mécanique. Okay. Par contre, avec Windows 10, voilà. Ouais. Donc le premier, Credential Guard. Donc on ne va pas faire un cours sur Credential Guard, mais là ce qui est intéressant, c'est que les credentials, comme son nom l'indique, vont être protégés. Dans le sens où ils vont être stockés non pas dans la mémoire de l'OS principal, mais dans une sorte de mini-OS hein, qui tourne dans une machine virtuelle à côté. Et donc là, les types d'attaques, type PASEH qu'on connaît, vont plus marcher. Simplement parce que les credentials, entre autres, le fameux service de sécurité LSASS, lui, service privilégié,
il y a une partie qui est isolée.
Voilà. Absolument.
De façon matérielle.
Matérielle.
Donc, si on est administrateur local système, on n'y a a priori pas accès directement.
Oui, absolument. C'est-à-dire que l'OS principal peut être compromis. En fait, compromis, c'est-à-dire un administrateur, ce qu'on disait à travers un malware, eh bien, même si tu es administrateur local, tu ne pourras pas accéder en fait à ces secrets. Donc ça, c'est une véritable protection. Une véritable protection contre ce type d'attaque. Et bien sûr, donc on a un nouveau principe d'authentification sans mot de passe qui s'appelle Microsoft Passport, enfin Passport for Work, qui fait qu'on ne s'appuie plus sur un mot de passe pour pouvoir s'authentifier. Donc ça, c'est très bien. Mais après, Dès qu'on va revenir sur une authentification Kerberos, on retombe sur la même problématique. Donc on voit bien que ça a quand même un intérêt d'avoir, de faire attention à notre fameux hash de mot de passe qui va se retrouver en mémoire. Donc là, simplement en synthèse, la vraie protection, c'est Credential Guard. Et autrement, c'est des solutions qui vont rendre la vie un petit peu plus
Credential
difficile.
Credential Guard, il n'est disponible que sur les versions Enterprise. Hein.
Oui, absolument.
Enterprise de Windows 10.
Oui. Donc, carte à puce et NTH. Donc, il faut voir que ce soit carte à puce ou carte à puce virtuelle, le scénario qui nous intéresse, c'est l'utilisateur en fait, qui est obligé d'utiliser sa carte à puce. Okay, donc il y a une option qu'on verra où on demande à l'utilisateur, on impose à l'utilisateur, si tu veux ouvrir une session, c'est forcément avec ta carte à puce, qu'elle soit virtuelle ou physique.
Donc c'est beaucoup utilisé pour les administrateurs de domaine notamment,
par exemple,
les administrateurs dès qu'ils ont un peu de droit.
Il y a des entreprises où systématiquement, on va imposer l'utilisation de la carte à puce. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe. Puisqu'en fait, on ne lui a pas imposé de mettre un mot de passe, on ne lui impose pas de changer de mot de passe, tout simplement, il ne connaît pas, donc il ne serait pas en mesure de le changer. Donc, dans la mécanique, et c'est toujours comme ça que ça a marché, on lui impose un mot de passe aléatoire. Alors, c'est un mot de passe qui est long. Mot de passe long, on sait bien, mais à la fin, ça se termine, on a toujours un hash de mot de passe. Et par souci de compatibilité, c'est ce qu'on a dit, le hash, au moment où tu fais ton authentification Kerberos, il va être transmis de façon à pouvoir être utilisé si tu dois faire gérer une authentification avec du NTLM. Donc, on voit bien que ça pose quand même un problème.
C'est clair.
Alors, le problème, c'est quoi? Ça ne protège pas finalement des types d'attaques. Hein. On a l'impression que la carte à puce, c'est vrai, elle apporte un niveau de sécurité, mais pas contre ce type d'attaque. Et le mot de passe n'est jamais renouvelé. Donc, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que même si on a un mot de passe qui est fort, en fait, le mot de passe n'est pas renouvelé. C'est-à-dire que quand tu travailles avec un mot de passe, on va te demander tous les 30 jours, peu importe, hein, tu choisis, de changer ton mot de passe. Là, quand tu travailles avec une carte à puce, c'est même pas renouvelé. Okay, donc, tu as un mot de passe, entre guillemets, éternel, ce qui n'est pas forcément…
D'accord, effectivement, donc c'est pire. Donc, le mot de passe, en tout cas.
Pour le mot de passe, c'est pire. Alors, bien sûr, il y a une solution de contournement. Hein, la solution de contournement que les gens trouvent, c'est tout simplement, que nos clients utilisent, c'est d'avoir un script qui va cocher-décocher la case en disant tu t'authentifies uniquement avec carte à puce, et puis on le décoche et on le recoche, et automatiquement, ça va faire une nouvelle génération de mots de passe.
Okay, donc, c'est une solution de contournement. Ça régénère un mot de passe à chaque fois qu'on recoche la case
Okay. Alors, ça va bien, si tu veux, pour une démo, quand tu as quelques dizaines, centaines d'utilisateurs. Après, quand systématiquement tu dois faire ça, il peut y avoir des petits effets de bord. C'est entre le moment, tu sais, avec les réplications des contrôleurs de domaine, etc., etc. Et donc, finalement, c'est une solution qui n'était pas, qui est pas forcément applicable à grande échelle. Donc, d'où l'idée, justement, de proposer un mécanisme de renouvellement automatique du mot de passe. Et donc, ce renouvellement automatique, finalement, c'est le décès qui va le prendre en compte. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va être en accord avec la politique du mot de passe que tu utilises pour ton domaine. C'est-à-dire, si tu dis, pour mon domaine, je change le mot de passe toutes les 3 semaines, tous les mois, tous les 3 mois, eh bien, automatiquement, si tu veux, le mot de passe qui avant était éternel va être automatiquement renouvelé.
À la fréquence donnée
À la fréquence donnée, donc on va voir, et ça c'est ce que je mets dans la salle, c'est que ça va se faire à l'ouverture de session, à la prochaine ouverture de session. D'accord ? Donc ça, c'est un intérêt, puisqu'en fait, ça va permettre, sur des grandes infrastructures, de faire que le renouvellement, le changement de mot de passe se fasse de manière un peu plus aléatoire, plutôt que d'avoir un script qui dit hop, tout le monde change de mot de passe.
Donc, effectivement.
Donc là, ça va être quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. T'imagines une entreprise avec du follow the sun, eh bien, automatiquement, ça va se faire de manière beaucoup plus étagée.
Ça va se faire à 9h du matin dans chaque.
C'est ça.
OK.
Autre point qui est intéressant. Et c'est ce que j'ai mis en place sur la maquette. C'est, si tu te rappelles bien, maintenant, il y a possibilité de définir des politiques de changement de mot de passe particulières. Oui. Par exemple, pour des administrateurs, tu dis bah, voilà le mot de passe, alors que pour la plupart des utilisateurs, ça va être sûr à changer tous les 3 mois. Eh bien, pour les administrateurs, ça va être toutes les 2 semaines. Okay, donc maintenant, on a, en fait, c'est les fine-grained policies, donc la possibilité d'avoir des politiques de sécurité particulières pour des populations particulières, pour des groupes particuliers, qui vont qui vont avoir donc une politique de changement de mot de passe qui va être différente. Donc ça, en fait, ça s'intègre complètement. Donc c'est-à-dire à l'intérieur du domaine, si tu as mis en place des politiques particulières, eh bien, si les utilisateurs sont des utilisateurs carte à puce, eh bien, ça va s'appliquer automatiquement.
D'accord.
Alors, les avantages, on le voit tout de suite. Donc, le NTH, tu veux, le H du mot de passe qui avant n'était pas changé, eh bien, va expirer à intervalles réguliers. Bon, tu vas pouvoir choisir l'intervalle que tu vas vouloir. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où, en fait, le H a été modifié, eh bien, quelqu'un qui était tranquillement, l'attaquant qui était tranquillement assis et qui utilisait les NTH qu'il avait récupérés, bah, à partir du moment où ils sont expirés, il ne pourra plus les utiliser pour se connecter. Deuxième point intéressant, et qui était un problème, c'est bah, les comptes dormants. Comment est-ce que tu fais pour déterminer un compte dormant si un mot de passe n'expire jamais? Okay. Et bien là, en fait, à partir du moment où tu as un renouvellement qui se fait de manière automatique, une personne qui ne s'est pas authentifiée, qui ne s'est pas loguée depuis un certain temps, donc a priori c'est la caractéristique du compte dormant, bah, tu vas pouvoir le voir par rapport au fait que bah, son mot de passe n'a pas expiré depuis la période que tu as donnée. Donc ça, c'est un deuxième avantage qu'on a avec cette fonctionnalité. Alors bien sûr, il y a des prérequis. Eh bien oui, il faut avoir des DC qui sont Windows Server 2016. Et donc avec le niveau fonctionnel serveur 2016.
Un domaine, oui. Le domaine au niveau fonctionnel de 2016, d'accord.
Oui, voilà. Donc ça, c'est au niveau du domaine. C'est-à-dire que…
C'est logique.
Bah, c'est logique.
C'est une fonction du contrôleur de domaine.
C'est une fonction du contrôleur de domaine. Donc, il faut que tous les contrôleurs de domaine aient cette fonctionnalité. Mmh. Tu ne vas pas pouvoir te permettre parce que bah, tu t'authentifies sur un DC qui n'est pas un DC 2016 et qui ne va pas forcément implémenter cette fonctionnalité. Voilà, donc il faut que ça soit homogène. Donc, c'est tout simplement pour ça. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que tu as une extension de schéma. Donc, tu as un attribut supplémentaire qui va être utilisé, mais c'est surtout l'idée, c'est d'avoir une réponse homogène, quel que soit le DC que tu interroges.
D'accord, et puis le client aussi.
Alors, au client, bah, sur le client, il n'y a pas de prérequis, en fait. Puisque la seule chose, c'est tu regardes si tu as, à partir du moment où tu fais une authentification par carte à puce ou carte à puce virtuelle ou Microsoft Passport for Work, et bien finalement, après, on rebascule sur du Kerberos. Sa fonctionnalité est simplement liée au fait que tu vas t'authentifier donc avec un mode un petit peu particulier qui est le mode « je travaille, j'ai une clé privée, une clé publique ». Donc voilà, donc ça va s'appliquer automatiquement à ces 3 types d'authentification.
Donc tous les postes clients supportés, donc depuis Windows 7
Voilà, donc à partir du moment où tu es capable de faire une authentification par carte à puce ou dérivée, eh bien, automatiquement, ça va s'appliquer.
OK.
Bon,
on va passer les 5 minutes.
Ouais, voilà, donc là, on a passé les 5 minutes pour pouvoir basculer sur notre démo.
Comme on est en direct, on devrait voir l'heure sur ta machine de démo.
Voilà, donc là pour l'instant, on voit toujours que c'est 14h05. Ah, donc ça, c'était l'heure du dernier changement de mot de passe. Alors ce que je vais faire, eh bien je vais m'authentifier. Donc là, je vais basculer. Donc je change de compte. Et là, je vais m'authentifier avec l'utilisateur Jean-Cé Trévage. Okay. Donc là, c'est un utilisateur qui travaille avec une carte à puce virtuelle. On voit le petit TPM.
Donc le code PIN de la carte virtuelle.
Je mets le code PIN. Donc là, je me suis correctement authentifié.
OK.
Donc là, vas-y. Donc,
tu as ouvert une session avec le compte qu'on voyait tout à l'heure dans l'Active Directory avec une carte à puce. Donc ça a déclenché ce fameux process de changement de mot de passe.
Absolument.
C'est peut-être pour ça que ça a pris quelques secondes de plus que.
Ouais, je pense pas.
Parce que le DC fait quelque chose.
Ouais. Enfin, à mon avis, il fait pas. Mais oui.
Comment va-t-on constater que son mot de passe a changé, puisque le mot de passe, on ne l'a pas utilisé.
Voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc je vais basculer sur le contrôleur de domaine. Donc, il faut que je réouvre ma session. Ici.
D'accord.
Donc là,
on rafraîchit l'affichage.
Alors, une chose qui est importante, donc pour que je vous montre que je n'ai pas menti, ici, vous voyez, donc c'est la fameuse option. Je vais agrandir. C'est la fameuse option qui indique que l'utilisateur doit forcément utiliser sa smart card, c'est-à-dire que je refuse nos types d'authentification par mot de passe. OK. Et donc là, je vais aller voir dans les attributs. J'ai recherché le même attribut ici. Et là, on voit que
14h40.
Voilà, on était à 14h05. Donc là, on est à 14h40. Donc on voit bien que, et ça a été déclenché puisque bah, je dirais, c'est l'heure actuelle. Hein, c'est
Donc 14h05, c'était 10-20 minutes avant qu'on commence cette vidéo.
Voilà. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est j'ai mis 5 minutes. Hein. J'ai mis un changement de mot de passe tous les 5 minutes. Donc j'ai utilisé des find and policy. Donc j'ai dit à partir de 5 minutes, ok, le mot de passe, je considère qu'il doit être renouvelé. Ok. Et on voit bien que il y a eu cette période de temps pendant laquelle l'utilisateur ne s'est pas authentifié. Mmh. À partir du moment où il a réouvert une session. Automatiquement, son mot de passe a été modifié. Et donc, en fait, ça correspond à l'heure d'ouverture de session.
En bas à droite de ton écran pour qu'on voit l'heure qu'il est actuellement.
Oui.
Donc, tu vois les 4. Il doit être 40, combien
ouais. Donc là, il est 44. Hein.
44, donc les 4 minutes quand même.
Ouais, voilà,
c'est
absolument.
Ça.
Absolument.
OK.
Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'on le voit. Donc ça, c'est à l'ouverture de session, mais par exemple, si l'utilisateur bloque sa session, à partir du moment où il se réauthentifie, oui. Automatiquement, il va y avoir une modification du mot de passe. OK ?
OK, bah c'est parfait. Donc on a une bonne illustration du principe.
Donc ça, c'était la démo. Maintenant, bah pour aller plus loin, alors je vous propose un livre blanc, si vous voulez en savoir un peu plus. Sur les attaques de type passe de hache et surtout la manière de s'en protéger. Donc il y a un très très bon livre blanc, donc il y a une version 2, mais c'est quelque chose qui est, je dirais, qui a été documenté depuis 2012, qui a été remis à jour. Et donc là, ça vous donnera une idée très très précise en fait des types de protection que vous pouvez mettre en place. Bon, sachant qu'en plus, on a cette nouvelle fonctionnalité qui arrive avec Server 2016. Autrement, un billet. Qui sera plus rapide à lire, alors qui est vraiment sur la partie ATA, hein, donc notre système de détection, entre autres qui détecte les types d'attaques passe de hache. Et bah, là, vous verrez dans ce billet-là, il y a une description assez simple de la manière dont ça marche, et donc ça pourrait vous permettre de vous éclairer sur le fonctionnement, éventuellement de mieux comprendre l'intérêt de la fonctionnalité de modification automatique, renouvellement automatique du mot de passe de Windows Server 2016.
On a également une vidéo de cette chaîne, même chaîne concrètement précédente sur ATA. Eh bien, merci Jean-Yves de cette démo et de ces explications. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur effectivement l'URL générique indiquée ici, aka.ms/concrètement. Et puis Jean-Yves, on vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci à tous, merci Jean-Yves.
Merci et puis à bientôt.
Au revoir.